Troisième conférence de la journée du 10 juillet 1986.
Philosophique, je lui laisse pour demain matin. Alors, celle-ci d'abord. Peut-on parler de la vulnérabilité de Dieu ou de souffrance? L'incarnation était-elle nécessaire pour que Dieu éprouve la souffrance et puisse ainsi lui donner un sens rédempteur? L'amour est-il à la souffrance? Pourquoi? La souffrance n'est-elle que psychologique? La souffrance peut-elle être spirituelle sans être l'orgueil? Qu'est-ce que l'enfer? C'est bien. Quelques petites questions, tu vois. La souffrance humaine, c'est clair, est rendu supportable par la croix. Mais comment, dans un jugement de sagesse, expliquer, éclairer la cruauté, le mal, la souffrance du monde animal, difficilement supportable et réel? On achève les animaux blessés. Pourriez-vous expliquer la parole du Christ? Réjouissez-vous que par vous que vos noms soient inscrits dans les cieux. Ne vous réjouissez pas de ce que vous commandez aux esprits. Alors, je commence par le point de vue de la vulnérabilité de Dieu. On ne peut pas parler au sens strict de la souffrance de Dieu. On le fait, mais c'est métaphorique. Dire c'est une transposition sur Dieu de ce que nous éprouvons. Pourquoi? Parce que la souffrance implique toujours un élément sensible, comme la douleur. Et la sensibilité ne pénètre pas directement Dieu. Dieu a créé la sensibilité. La sensibilité est humaine. Elle est typiquement humaine. Mais elle n'est pas divine. Elle peut être divinisée, transformée. C'est bien évident. Il y aura une sensibilité des corps glorieux dont nous n'avons aucune expérience. Mais il y aura une sensibilité des corps glorieux. On continuera de se voir. Tous ceux qui se sont rencontrés sur la terre, qui se sont aimés de charité divine, continueront de s'aimer. Spirituellement, divinement et sensiblement. Mais on ne peut pas attribuer la sensibilité à Dieu. C'est vrai que c'est par le Christ que Dieu a souffert. C'est par le cœur de l'homme assumé dans le Christ par le Verbe de Dieu qu'on peut dire que la souffrance a pénétré en Dieu. Et en ce sens-là, la souffrance est devenue divine. Mais ça ne veut pas dire que le Père souffre, que le Verbe comme Verbe souffre, que l'Esprit Saint souffre. Mais je crois qu'on peut parler de vulnérabilité. J'aime mieux ça personnellement. C'est assez délicat, mais je crois que c'est quand même important. Dès que nous aimons, nous devenons vulnérables. C'est le propre de l'amour. C'est pour ça qu'on a si peur d'aimer. Parce qu'on devient beaucoup plus capable de souffrir. Dès qu'on aime, la moindre chose qui blesse ce qu'on aime vous blesse. Cette vulnérabilité, très caractéristique de l'amour, et cette vulnérabilité peut être purement spirituelle. Il y a une vulnérabilité sensible et une vulnérabilité spirituelle. C'est une capacité de porter avec l'autre. C'est très proche de la miséricorde. La miséricorde implique la vulnérabilité. Or, on dit que Dieu est miséricordieux. Que Dieu entend le cri de l'enfant dans le désert. Et donc, il y a une vulnérabilité. Dieu n'est pas insensible. C'est ça que ça veut dire. L'insensibilité de Dieu, quand on dit Dieu est immuable, il ne bouge pas. Comme un Bouddha. C'est pas du tout la même chose, voyez. Dieu aime et Dieu est miséricordieux. Et donc il porte la misère des autres. Il la porte dans le Christ et il la porte lui-même par amour. C'est pour ça que je crois qu'on peut parler de vulnérabilité. Alors, l'incarnation était-elle nécessaire pour que Dieu éprouve la souffrance dans le cœur de Jésus et puisse ainsi lui donner un sens rédempteur? C'est un des grands aspects du mystère de l'incarnation. Ce n'est pas le premier. Selon toute l'Écriture, le premier, c'est que Dieu a voulu l'incarnation pour nous sauver. C'est-à-dire pour porter lui-même toutes les conséquences du péché. Pour que Jésus puisse se présenter en face du Père comme le seul responsable de toute l'humanité pécheresse. Jésus a porté toute la responsabilité des pécheurs en face du Père. Il était le seul comme homme-Dieu, à pouvoir se présenter en face de la justice du Père et réparer, satisfaire en toute justice le poids de l'iniquité du monde. C'est un des grands aspects du mystère de la rédemption. C'est pas le seul. Je crois qu'on peut aller plus loin. Nous dirons tout à l'heure du reste, c'est de voir que le mystère de la rédemption, c'est avant tout et en premier lieu la manifestation de l'amour du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est la parole de Saint Jean. Donc on peut très bien dire que grâce à l'incarnation, Dieu éprouve la souffrance. Porte la souffrance. La souffrance est vécue en lui. Et par là, il donne à la souffrance à nouveau une nouvelle signification et un sens rédempteur. L'amour est-il toujours lié à la souffrance? Non, puisque Dieu est amour et que la souffrance n'est pas en Dieu. La souffrance, l'amour est toujours lié à la joie, mais pas à la souffrance. L'amour implique la joie. Mais l'amour dans le cœur de l'homme, très souvent est lié à la souffrance. Et le chrétien, lié à la croix, son amour divin, alors va impliquer la souffrance. Dans son lien avec le Christ. C'est à cause de ce lien très fort avec Jésus que de fait, son cœur qui aime est lié à la souffrance. Je crois que le chrétien est nécessairement lié à la souffrance parce qu'il est lié au Christ et que Jésus a voulu terminer sa vie par le mystère de la croix. La souffrance est-elle que psychologique? Non. La souffrance est beaucoup plus que psychologique. souffrance chrétienne, elle peut avoir une dimension de rédemption. Donc elle n'est pas que psychologique. Le psychologue regardera la réaction, ou si vous voulez, les conséquences de la souffrance sur l'homme qui souffre, sur sa sensibilité, sur ses réactions. Quelqu'un qui a beaucoup souffert, par exemple, il a un comportement différent que celui qui n'a jamais souffert. Ça se voit sur son visage. Ça se voit dans sa manière d'exister. Dans sa manière d'être. Donc, il y a tout un aspect psychologique. Mais il y a une profondeur qui relève de l'amour. La souffrance peut-elle être spirituelle ? La souffrance humaine demande d'abord d'être spirituelle. C'est en ce sens-là qu'elle peut être chrétienne, parce qu'elle peut être spirituelle, spiritualisée par l'amour. Et elle n'est pas nécessairement liée à l'orgueil. C'est bien évident. Même ordinairement, la souffrance est un moyen de faire que l'orgueil dans notre vie diminue. Très souvent. Parce que la souffrance nous donne un sens très grand de nos vulnérabilités, de nos fragilités, de notre faiblesse et de notre dépendance. Quelqu'un qui souffre accepte beaucoup plus facilement la dépendance que quelqu'un qui n'a jamais souffert. Quelqu'un qui n'a jamais souffert risque toujours d'avoir cette espèce d'autonomie très grande que donne l'intelligence. L'intelligence en horreur de la souffrance. Un intellectuel est toujours un peu touillé. Parce que il a toujours évité la souffrance. Toujours. En tant qu'intellectuel, l'intelligence n'aime pas la souffrance. Ça, c'est très net. C'est notre cœur qui souffre. L'intelligence évite par tous les moyens. Elle prendra une stratégie extraordinaire pour éviter la souffrance. Il n'y a pas de souffrance dans la logique. Il n'y a pas de souffrance dans la connaissance spéculative. Il n'y a pas de souffrance dans la science. Donc, l'intelligence fuit la souffrance. Et c'est dans ce sens-là que elle aura peur de la souffrance. Je me souviens que c'était dans le train de Lausanne à Fribourg. Je n'imiterai pas l'accent des femmes de Lausanne parlant de leur mari, ce qu'il est douillé. Un tout petit peu de souffrance. Nous sommes habitués à la souffrance. Alors la femme, ces braves femmes, reconnaissaient qu'elle s'était habituée à la souffrance et qu'elle pouvait souffrir sans rien dire. Parce qu'elle considérait que l'homme a toujours beaucoup de peine de souffrir. Et qu'un rien, c'est un drame. L'intelligence. Je ne dis pas que la femme n'a pas l'intelligence développée. Je n'ai pas dit ça. L'intelligence plus développée, plus résonante, surtout plus logique. Une intelligence au service de l'amour accepte plus facilement la souffrance. Et c'est sans doute l'intelligence de la femme, la perspicacité de l'intelligence, comme dit saint Thomas. Ça touche la personne. C'est une forme d'intelligence un peu différente et qui alors est beaucoup plus liée à l'amour et accepte facilement la souffrance. Alors qu'est-ce que l'enfer ? Vous voyez, cet après-midi, on voyait le mal dans le monde physique, les ténèbres, le mal dans le monde biologique, le mal dans le monde de l'esprit, l'orgueil. Le mal dans le monde surnaturel, l'enfer. C'est le mal de ceux qui étaient appelés à voir Dieu face à face. Et qu'ils ne verront jamais orgueil. À cause du refus d'aimer, on ne peut voir Dieu que grâce à l'amour. Et c'est à travers l'amour que notre intelligence peut s'épanouir jusqu'au bout et recevoir la vision béatifique. C'est à travers la charité. seul responsable de toute l'humanité. Il a porté toutes les conséquences du péché dans son propre cœur, comme s'il était le seul coupable. Il a accepté d'être comme le bouc émissaire de toute l'humanité, celui qui veut réparer pour tous les hommes. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que toutes les conséquences du péché, Jésus les a prises au plus intime de lui-même, dans son cœur, et s'est présenté au Père comme le seul responsable de toute l'humanité. C'est ce qui explique cette tristesse mortelle. C'est dans Saint Luc que nous voyons la description la plus belle, la plus précise de l'agonie. Et je crois qu'il la tient de Jean. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas présente dans l'évangile de Jean. C'est un mystère de tristesse. L'amour n'est pas aimé. Vous savez la tristesse de Saint François. L'amour n'est pas aimé. Et cette tristesse de Saint François qui pleure parce que l'amour n'est pas aimé, Jésus l'a vécu avant, dans le mystère de l'agonie. Lui qui est amour, parce qu'il est Dieu, il voit que les hommes refusent cet amour et que le péché de tous les hommes, c'est toujours un refus. Pas vouloir aller jusqu'au bout des exigences de l'amour. Et ceci m'a orgueil. C'est l'orgueil qui arrête le plus l'amour humain et divin. C'est pour ça que d'une certaine manière, c'est la seule faute. Les fautes de faiblesse, les fautes selon la chair, c'est des fautes de faiblesse. Il y a toujours un peu d'amour. Il y a une fragilité, parce qu'on n'a pas le courage d'aller plus loin. Tandis que la faute d'orgueil, c'est nettement le refus d'aller jusqu'au bout des exigences de l'amour. Et donc il y a là quelque chose de bien plus absolu. On veut dominer, on veut qu'il n'y ait plus que soi. Et c'est ce que Jésus porte en premier lieu dans son agonie. Lui, le pauvre, l'humble, il porte toute cette iniquité d'orgueil, l'iniquité personnelle et collective de l'humanité. Tristesse parce que l'amour n'est pas aimé. Vous voyez que le mystère de l'agonie, c'est un mystère d'amour. C'est porté pour les autres. C'est donc un mystère de miséricorde. Et porter l'orgueil de l'humanité, présentant au Père un amour plus grand. De fait, les hommes soient pardonnés. Dans le mystère de l'agonie, qui n'est pas un mystère d'angoisse, il ne faut pas confondre l'angoisse psychologique et le mystère de l'agonie. C'est deux choses différentes. Qu'il y ait des analogies ou des parallélismes qu'on peut faire très bien, mais c'est quand même tout à fait différent. un mystère, tandis que l'agonie est un mystère. Il faut bien comprendre que durant l'agonie, il y a une prière où Jésus exprime les désirs les plus profonds de son cœur. Je crois que cette prière est très importante. Père, que ce calice s'éloigne, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Passage, et je comprends. On doit tout le temps y revenir, parce que c'est un moment si important dans la vie du Christ. Oui, de porter l'iniquité du monde, tout l'orgueil du monde. Que peut-être cette prière, que le calice, Jésus ne dit pas que la mort s'éloigne. Il prend un langage symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ce langage symbolique regarde la croix telle qu'elle existera, la croix telle que Jésus la vivra le lendemain, c'est-à-dire la croix avec la présence de Marie et la présence de Jean et la présence des saintes femmes. La croix impliquant le mystère de la compassion dans le cœur de Marie, dans le cœur de Jean, dans le cœur des saintes femmes. C'est cela que Jésus, dans son cœur d'homme, dans son cœur de prêtre, dans son cœur royal, responsable de tous les hommes en face du Père, de nouvel Adam. C'est cela que Jésus demande, que ce soit écarté. Jésus ne veut pas écarter sa propre croix. Il accepte de porter toute l'iniquité du monde. Il a accepté dès le point de départ. Il est venu pour cela. C'est dans l'Épître aux Hébreux. Il est venu pour accomplir la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est qu'il porte toute l'iniquité du monde. Donc, Jésus ne demande pas que sa mort, que sa croix soit éloignée. Mais s'il demande que Marie soit épargnée, je crois que ça fait partie de la noblesse du cœur, cela. On partage la joie, mais on ne partage pas ses souffrances. Quand on a un cœur magnanime, on veut souffrir seul. Et épargner ce qu'on aime le plus. Je crois que ça, c'est la noblesse d'un cœur humain. Ça se voit tout de suite, ça. On veut être seul à porter la souffrance. Jésus sait qu'il peut, au point de vue de la justice, satisfaire pleinement la justice. Demande que Marie soit épargnée. Je crois que ça, c'est la prière. Jésus en même temps s'en remet au bon plaisir du Père. C'est le Père qui veut que le mystère de la croix surabonde dans le cœur de Marie. Que le mystère de la croix surabonde dans le cœur de Jean. Que le mystère de la croix surabonde dans le cœur des saintes femmes. Et dans le cœur de tous les saints, à travers tous les temps, l'Église vit le mystère de la compassion. L'Église continue de vivre le mystère de la croix. La parole de saint Paul est très nette. J'achève dans mon corps ce qui manque à la passion du Christ. C'est encore beaucoup plus vrai du mystère de la compassion. Soit plus unie à Jésus. Pour de gens, du cœur des saintes femmes et du cœur de tous les saints, et donc de chacun d'entre nous. Je crois que c'est très important pour nous de nous rappeler que Jésus a demandé au Père que Marie soit épargnée. Dans son cœur d'homme, il a demandé que l'Église, et donc chacun d'entre nous, nous soyons épargnés. Quand certaines souffrances viennent sur nous, certaines blessures, quand la croix s'enracine dans notre vie et au plus intime de notre cœur, n'oublions jamais que Jésus, dans l'agonie, a demandé au Père que cette souffrance soit épargné pour chacun d'entre nous, et que c'est le Père de toute miséricorde qui a voulu que le mystère de la croix s'étende. Pourquoi l'a-t-il voulu? Pour que la miséricorde aille plus loin, pour que l'amour puisse se communiquer plus, pour que Marie soit plus intimement unie au cœur de Jésus, et pour que chacun d'entre nous, nous soyons plus immédiatement unis au cœur de Jésus et au cœur de Marie. Je crois que ce qui lui dit le plus, c'est de vivre ensemble la même souffrance. Vous voyez, bien saisir aussi, en troisième lieu, la présence de l'ange dans l'agonie. Cet ange qui vient consoler Jésus. Les pères de l'Église disent que c'est Gabriel, l'ange de Marie. Parce que ça ne peut être que l'ange de Marie. C'est Marie qui envoie son ange. Puisque le mystère de l'agonie doit être vécu dans la solitude. Jésus vit le mystère de l'agonie seul. Et Marie vit le mystère de la compassion par rapport à l'agonie seule. Et cependant, à travers cette solitude,
l'enseignement, la
aussi partie des conséquences du péché. Et c'est vrai, il y a un labeur quand on veut enseigner. Il y a un labeur pour faire n'importe quel travail humain. Ça aurait pu sauver les hommes. Et voilà que ce soit par la souffrance et par la croix. Poser la question, point de vue théologique. C'est parce que il me semble que l'amour peut se manifester de la manière la plus parfaite, la plus intense, la plus pure, par la souffrance, plus que par le travail. La souffrance, elle est portée dans notre cœur. Et la souffrance peut manifester de la manière la plus forte, je crois, parmi toutes les activités humaines. Réfléchissez sur toutes les activités humaines. On n'a pas le temps, mais c'est facile. Alors regardez ça. La souffrance, c'est l'activité humaine qui manifeste le plus l'amour et qui peut le mieux manifester l'amour. Parce que dans la souffrance, on pâtit, on subit. Et la souffrance a été jusqu'au coup de lance. Jésus a pâti de la manière la plus forte. Et quand on pâtit, on est dépendant. Violente, de celui qui nous blesse. Normalement, quand on pâtit et qu'on subit cette violence, on réagit violemment pour nous libérer de cela. Ça, c'est humain. Ici, Jésus va pâtir volontairement. Amoureusement, pour nous faire comprendre que l'amour est plus fort que la mort, est plus fort que toutes les souffrances, et que l'amour est capable de se servir de ce qui, d'une certaine manière, s'oppose à l'amour, puisque l'amour demande la joie, et que la souffrance, c'est vrai, humainement parlant, pourrait supprimer l'amour. Vous n'avez qu'à réfléchir sur tous les drames, même à l'intérieur des foyers. Quand un mari ne fait pas assez attention à son épouse et qu'il la fait souffrir, ça arrive. Ou quand une épouse ne fait pas assez attention et fait souffrir son mari, ça dure un certain temps. Puis au bout d'un certain temps, on dit, c'est impossible, pas plus. Et on demande de se séparer. Vous voyez, la souffrance, c'est l'ennemi numéro un de l'amour. C'est la privation de la joie. Et la joie, c'est la manifestation de l'amour. Il y a une espèce d'opposition entre la souffrance et l'amour, naturellement parlant, philosophiquement parlant, comme la tristesse. Et Dieu a voulu montrer comment l'amour divin était victorieux de la souffrance et victorieux de la mort, pour nous montrer la force et l'intensité de cet amour, qui est un amour substantiel, puisque c'est un amour divin. Et donc il peut être victorieux de la mort. L'amour humain ne peut pas être victorieux de la mort. Il voudrait bien, de temps en temps, être victorieux de la mort. Quand vous voyez une épouse encore jeune, en présence de son mari, qui est en train de mourir, on a tous vu son amour puisse redonner vie à son épouse. Par tous les moyens. Je voudrais que l'amour soit victorieux de la mort et de la souffrance. Au point de vue humain, on ne peut pas. C'est impossible. L'amour humain étant intentionnel, comme disent les philosophes, il n'est pas substantiel. Il n'est pas source de vie. Il aide à vivre, mais il n'est pas source de vie. Il n'y a que l'amour divin qui est source de vie. Et qui peut être victorieux de la mort et victorieux de la souffrance. Et Dieu, pour manifester la grandeur de l'amour qui unit le Fils bien-aimé à son Père, a voulu que toutes les souffrances s'accumulent dans le cœur de Jésus. Mort soit présente à la croix pour que nous comprenions la puissance de l'amour divin, la puissance de l'amour du Père, capable d'être victorieux de toutes ses souffrances, de toutes ses morts. C'est, je crois, la grande signification du mystère de la croix. C'est un mystère d'amour et d'une victoire de l'amour. Et ça se manifestera dans la gloire. Ça se manifestera dans la résurrection. Mais c'est présent à la croix. La croix est une victoire de l'amour. Extérieurement, ça paraît comme un échec terrible. Le plus terrible des échecs. La croix, c'est le plus terrible des échecs. À 33 ans. Pour quelqu'un d'aussi intelligent, d'aussi capable. À 33 ans, être trahi par un ami. C'est une chose qui est plus dure, la trahison. La trahison, c'est la mort de l'amitié, quand un ami trahit. Être rejeté de son peuple religieux, considéré comme un blasphémateur, qui le meurt comme citoyen de son peuple religieux. Puisqu'il est condamné comme un blasphémateur. Toutes les morts sont présentes pour faire saisir comment l'amour du Père se sert de toutes ces morts en les transformant pour pouvoir se communiquer plus pleinement à nous. Le grain de blé tombé en terre meurt pour porter tous ses fruits, pour être fécond. La fécondité de la croix, c'est la grande victoire de l'amour. Il faut bien saisir que Jésus s'offre librement. Il meurt librement. Pas les bourreaux qui l'ont tué. Les bourreaux ont blessé Jésus. Et Jésus a devancé la mort. L'évangile de Saint Jean montre bien. Il a devancé la mort pour que nous comprenions bien qu'il s'offre librement dans un acte d'obéissance. Et c'est très important de comprendre cela, parce que c'est par là qu'on comprend que la croix est une victoire de l'amour. C'est Jésus qui va au-devant. Et c'est Jésus qui s'offre. Donc le lien entre la souffrance et l'amour. Pour faire comprendre comment tout est renouvelé par cette victoire de l'amour. Comment tout est repris jusqu'à la mort. Et la mort prend une nouvelle signification. Elle devient comme un passage, c'est plus un absolu. La mort pour le chrétien n'est pas un absolu. La mort pour le chrétien, c'est un passage en vue de la résurrection, en vue de la glorification. Alors il y aurait le troisième moment à regarder. soit remis à la terre. Le silence du sépulcre. C'est Marie qui doit le vivre. Troisième moment de la compassion. Il y a les trois moments de la compassion. Et toujours, c'est cette victoire de l'amour à l'égard des ténèbres de la terre, à l'égard de ce silence.
C'est là la grande espérance.